Bonsoir tout le monde. Eh oui, bienvenue à cette émission en toute intimité. Je suis en compagnie de Diane Deslongchamps, qui est une coach en périnatalité, qui a une formation d'infirmière. Et ce soir, on va répondre ensemble à une question qui est pertinente. Qu'est-ce qui fait qu'un couple cesse de faire l'amour? On sait que, je me souviens, il y a un homme qui m'avait donné un exemple. Il m'a dit, « Éric, quand tu es nouveau marié, faire l'amour, c'est comme mettre des billes dans un bol. À un moment donné, tu le remplis parce que tu en mets souvent des billes dedans, puis il se remplit assez vite. Puis après un certain temps, eh bien, tu mets un autre bol à côté, puis tu le remplis un petit peu moins, puis ça prend plus de temps pour le remplir parce que tu fais moins souvent l'amour. Maintenant, est-ce que c'est normal, ça, de faire moins souvent l'amour? Est-ce que c'est de santé? Est-ce que c'est de santé relationnelle? On va en discuter. Comme on vous l'a déjà dit, nous ne sommes pas des psychologues, nous ne sommes pas des sexologues. On est là pour en discuter, pour vous donner justement des outils, des pistes, pour que par la suite, il puisse y avoir des discussions, des rencontres qui sont dans une atmosphère où est-ce que ce n'est pas menaçant, où est-ce qu'on peut en discuter librement, où on ouvre la discussion avec certaines pistes et puis c'est parti. Si jamais la discussion tourne au vinaigre ou si jamais ça crée une tension, là, on vous invite à consulter. On vous invite à consulter soit un psychologue, sexologue ou des gens spécialisés. Puis, on ne doit pas voir ça comme une punition. Moi, étant plus jeune, je voyais toujours la consultation, aller consulter des professionnels comme une punition. Et à partir du moment où est-ce que j'ai réalisé que de consulter des professionnels, c'est un cadeau qu'on s'offre, eh bien, là, ça a changé toute ma perspective. Pourquoi? Parce que quand on consulte des professionnels qui nous aident, qui nous fait voir la vie sous un autre angle, eh bien, ça nous permet de nous libérer puis de vivre une vie beaucoup plus agréable. Qu'est-ce que tu en penses, Diane?
C'est très intéressant ce que tu dis. J'ai noté plein de choses. Tu as parlé du vase, premièrement. Là, je trouve ça intéressant. Parce que souvent, quand tu mets des billes comme ça, puis là, tu dis « mon vase est plein », mais finalement, il n'est pas plein, parce que si tu mets du sable, ça va rentrer. Puis là, tu dis « moi, j'ai mis du sable, j'ai mis des billes, si mon vase est plein », ben non, tu peux mettre de l'eau encore. Tu sais, fait qu'on n'a jamais fini d'apprendre, puis on peut toujours grandir. Puis l'aide, ben c'est sûr que c'est nécessaire dans bien des cas, puis pourquoi qu'on s'en priverait? Si c'est pour avoir une relation de couple harmonieuse pendant des années. Je ne vois pas pourquoi qu'on s'en priverait, en fait.
Oui, puis ça va dans les deux sens. De ne pas se priver de l'aide ou de l'accompagnement, puis de ne pas se priver de vivre une saine et sereine sexualité. Mm-hmm. Et ça, c'est important. Mais il y a un problème. C'est que dans notre société, on voit la sexualité, on a déjà parlé dans d'autres capsules précédemment, on voit de la sexualité partout, de la sensualité partout. Donc, ce que ça laisse, comme dans notre imaginaire, ça nous laisse l'impression que si on le fait une ou deux fois par semaine, bien, on est en bas de la moyenne, puis on se sent comme si on n'est pas à la hauteur, comme si on n'est pas suffisamment performant sexuellement. Et ça, c'est un danger. Et ça, juste cette pression-là de sentir qu'on n'est pas suffisamment performant, ça peut être un déclencheur qui fait en sorte qu'on a moins le goût de faire l'amour. Qu'est-ce que tu en penses, Diane?
Bien, je pense que les statistiques sont souvent biaisées et reflètent pas vraiment la réalité. Je lisais cette semaine justement que 20% des couples qui sont mariés depuis longtemps n'ont plus du tout de relations sexuelles. None. Ils vivent comme un frère et sœur. Ils ont trouvé d'autres moyens, eux. Ça ne veut pas dire que je ne mets pas un jugement de valeur là-dessus, mais ils ont trouvé un autre moyen de vivre une vie de couple harmonieuse. Mm-hmm. Ça, c'est à chacun de voir, là, mais ce n'est pas le sujet. Mais c'est juste pour dire que des fois, les statistiques, on pense que tout le monde fait l'amour 5 fois par jour, puis que si toi, c'est une fois par semaine ou une fois par mois, t'es pas normal. Mm-hmm. Je suis pas sûre que c'est la réalité, finalement. Mm-hmm.
Tout à fait. Puis moi, je vous invite à lire un livre qui est intéressant parce que ça traite de l'intelligence genrée. Ça place en perspective les réalités féminines et masculines, et on s'y réfère souvent, Diane et moi, de ce livre-là, c'est « Mars et Vénus en amour », un livre de John Gray. Puis je crois que tu voulais nous citer un extrait de ce livre-là, Diane.
Oui, lors de la dernière capsule, on a terminé avec ce petit extrait-là. Il disait, John Gray, que les hommes ont besoin de sexe pour voir leurs sentiments amoureux s'éveiller, tandis que les femmes ont besoin d'être amoureuses pour éprouver du désir. Mm. Et je pense que de là, il y a beaucoup de problèmes qui partent de là. Parce qu'on vit sur deux planètes différentes. Hein? Les hommes viennent de Mars, puis les femmes viennent de Vénus. Fait qu'on a une façon différente d'aborder la sexualité, mais pour arriver au même but.
Mm-hmm. Fait que... Oui, tout à fait. Puis j'aimerais ça que tu nous énumères là, quelques points qui font en sorte, là, quelques facteurs qui font en sorte qu'un couple fait moins souvent l'amour ou même ne fait plus l'amour.
Oui, bien avant de rentrer dans l'aspect pourquoi que les femmes ont besoin d'être amoureuses puis les hommes ont besoin, dans l'aspect plus psychologique, on peut regarder d'autres aspects comme le manque de temps. Mm-hmm. Aujourd'hui, l'homme, la femme travaillent, les enfants sont à la garderie. La vie va très, très vite. Tu rentres, c'est les devoirs, c'est les bains, c'est le souper, c'est les lunchs pour le lendemain. Bien, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on met les échanges amoureux de côté, puis on se dit, bon, bien, peut-être en fin de semaine. Ça arrive souvent sur les couples qui ont ce problème-là. Ou ils ont des rapports sexuels ennuyeux. Mm. Satisfaisants, mais redondant, c'est toujours la même façon de procéder. Il vient, il me caresse, il arrive ci, il arrive ça, ou il me fait un clin. Il y a toujours le même, c'est comme le même chapelet qui se passe, puis même si ça peut être intéressant, plaisant, ça peut devenir moins excitant à la longue. Fait que ça peut être une des raisons pour lesquelles les couples ont moins de relations sexuelles. Mm-hmm. Il y a aussi la fatigue. Tu sais, avant, on disait... Non, chérie, pas ce soir, j'ai mal à la tête. Aujourd'hui, c'est non, chérie, pas ce soir, je suis épuisée. Parce que justement, les femmes travaillent autant que les hommes. Et souvent, ils ont double tâche parce que, encore beaucoup de couples, il y a la femme c'est la femme qui fait le lavage, le ménage, qui va chercher les enfants en garderie, etc., etc. Le partage des tâches est peut-être pas toujours égal encore. Ce qui fait que la femme peut être épuisée. Et même parfois, ça peut être l'homme, on va le voir plus tard. Mm-hmm. Ça peut être aussi parce qu'on a de la mésentente dans le couple. Là. Fait qu'on a ce chicane, mais après une chicane, tu n'as pas vraiment envie de te rapprocher, quoique il peut y avoir réconciliation et de là, ça devient même plus intéressant pour le couple. Mais il faut savoir comment se parler. Si on arrive à nommer les choses quand on vit des choses qui sont plus difficiles avec notre conjoint, si on arrive à les nommer, comme on a déjà dit dans les capsules précédentes, de trouver le bon temps quand ça va bien, pour parler des choses qu'on a trouvées qui allaient moins bien, sans dénigrer l'autre, parler au jeu, ou si on parle de l'autre pour quelque chose qui nous a comme affecté, mais en parler sans accuser. De comment tu penses qu'on pourrait faire pour que la prochaine fois, je le vive pas comme ça, puis que toi, ça soit correct pour toi aussi. Tu sais, comme une façon d'aborder... au lieu de se chicaner, parce que quand on chicane, ben c'est vrai qu'on se tourne de bord, chacun, on fait pas la cuillère, mais on fait du dos à dos, puis on se parle.
Puis un bon conseil par rapport à ça, je fais du bon sur ce que tu dis. C'est important pour une femme de donner le punch dès le début. Si justement, il y a un mécontentement, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que souvent, nous, les hommes, on cherche à comprendre ce que vous dites d'une manière rationnelle, puis on essaye de faire les liens rationnels comme s'il y avait un fil conducteur, puis il n'y en a pas toujours. Alors, c'est important de mettre les cartes sur table dès le début, puis là, ça va faciliter la discussion. Et ça va éviter justement que soit que ça monte en escalade, ou soit que ça tourne en rond, ou soit que ça finisse en queue de poisson. Alors ça, c'est un bon conseil que je donne aux femmes et ça va faire en sorte que la discussion va être plus harmonieuse et ça risque de mieux finir.
Tu as raison. Des fois, nous, les femmes, on est là, on file pas, on se sent pas bien parce qu'on a vécu quelque chose dans la semaine. Puis on est rendu au vendredi soir où est-ce que le lendemain, normalement, on travaille pas. Puis là, on voudrait avoir un échange amoureux, mais là, il y a quelque chose qui nous a grugé pendant toute la semaine, qu'on n'a pas eu le temps, pour toutes les raisons du monde, de se parler.
Mm-hmm.
Et finalement, le mari ou le conjoint aborde sa femme dans le sens d'avoir une relation sexuelle, puis finalement, elle ne veut pas. Mm-hmm. Puis il ne comprend pas parce que la journée s'est bien passée, mais il y a du ressentiment de ce qui s'était passé cette semaine. Puis lui, c'est passé, là. Il a complètement oublié cette histoire-là. Mm-hmm. Fait que c'est vrai que c'est bien d'en parler le plus rapidement possible et de la meilleure façon aussi.
Oui, parce que vous, les femmes, quand vous voyez un besoin, règle générale, vous répondez. Alors que nous, les hommes, on attend qu'on nous le demande. Alors ça peut être une cause du ressentiment en disant « Ah, ben j'ai fait ça, tu n'as pas réalisé que c'est moi qui s'en occupais, puis toi, pendant ce temps-là, tu t'es amusé. » Bien, c'est au fur et à mesure le plus possible. Des fois, c'est difficile parce que justement, vous le gardez, vous essayez de passer par-dessus. Mais c'est d'apprendre à demander de l'aide immédiatement. Ça va baisser votre niveau de ressentiment. Ça, c'est clair.
C'est fou comment on est différents, les hommes et les femmes. Hein?
Ah, tout à fait. Tu voulais nous parler aussi d'une raison médicale.
Des
raisons médicales.
Oui, il y a plusieurs raisons médicales. La maladie dans son ensemble, en fait, tu mm-hmm. peux être toi malade, ton conjoint peut être malade, ça peut être tes parents qui sont malades et que ça te demande plus de temps, plus d'énergie. Mm-hmm. Ça peut être un enfant qui est malade ou ça peut être soi-même qui est malade, tu sais. Puis, bien, c'est sûr que ça altère, mettons, la fréquence des relations sexuelles.
Mm-hmm.
Mais
tout à
il y a
fait.
Aussi d'autres problématiques plus spécifiques. Je ne parlerai pas de toutes, mais juste les plus connues, je dirais. Pour un homme, éjaculation précoce. Je veux dire, c'est tout le problème de l'excitation qui est mal gérée, puis pourquoi c'est mal géré, puis là, la femme est frustrée parce qu'elle n'a pas eu son tour, et voilà, c'est fini. Ah, ça sera la prochaine fois. Mais tout ça, là, ça, c'est comme, ça fait partie de la problématique, mais ce n'est pas des choses qui se résout pas. Ça se résout, ça. Il y a des façons de faire, puis des façons d'apprendre et canaliser tout ça. Il y a aussi problème de prostate. Tu sais, quand on a un problème avec la prostate, ben il y a une diminution de la libido, puis des problèmes érectiles. Fait qu'on en parle peu, mais le cancer de la prostate chez les hommes, c'est le cancer le plus important. Et puis, puis même si c'est pas un cancer, ça peut être un problème de prostate, tu sais, qui peut arriver avant le cancer ou pas du tout le cancer, mais qui a un problème de prostate. Ben, ça crée de la problématique. Fait que ça peut créer. Tu sais, peut-être que la femme, elle va le sentir. Bon, t'es pas venu en érection, c'est parce que je t'excite plus. Fait que ça peut créer des tensions ou des sous-tensions qu'on parlera pas, mais que finalement sont là, puis que finalement on se retire chacun dans notre coin. Chez la femme, il y a le vaginisme. Je ne sais pas si tu connais ça, le vaginisme, Eric. Ce n'est pas une femme. C'est des contractions musculaires prolongées puis récurrentes au niveau des muscles du plancher pelvien. T'sais? Fait que ça, c'est comme à chaque fois qu'il y a une relation sexuelle, ben il va avoir ces contractions-là qui sont vraiment, vraiment douloureuses. De la même façon que la dyspanurie, c'est aussi une douleur qui est lors de la relation sexuelle, qui est causée soit par une mycose, un kyste ovarien, l'arrivée de la ménopause ou un blocage psychologique tout simplement. Mais ça peut créer aussi comme la peur d'avoir une relation sexuelle pour ne pas vivre ça. Puis un troisième que j'avais noté, c'est l'insuffisance de la lubrification personnelle.
Ah ben oui.
La lubrification vaginale, c'est une réponse physique déclenchée lors de l'excitation sexuelle chez la femme. Donc, ça peut arriver parce que la femme est mal préparée, l'homme était voulu être trop vite parce qu'il avait peur d'éjaculer précocement, mais ça peut être aussi parce que le moins d'ocytocine, puis dans ce temps-là, bien, il y a moins de lubrification. Mais toutes ces problématiques-là, comme je l'ai dit tantôt, ça peut se résoudre. Puis les raisons psychologiques, tu sais, une femme qui a subi des agressions sexuelles ou qui a vécu l'adultère, ben c'est sûr que ça met des bâtons dans les roues
Absolument.
De le rouage psychologique de la femme, tu sais. Ou même un homme qui aurait eu une agression sexuelle, il y en a eu des hommes, ou que leur femme les a trompés, tu sais. C'est comme ça aussi, ça peut faire, ça peut porter atteinte là au débit là, des relations sexuelles.
Tout à fait. Puis il y a aussi les besoins qui doivent être. On doit tenir compte des besoins de chacun, hein, les besoins de la femme, les besoins de l'homme. Pourrais-tu nous en parler rapidement?
Bien, la femme, elle, là, pour revenir à la déclaration de John Gray que je lisais tantôt, c'est que la femme, elle, a besoin d'être amoureuse. Ça veut dire que l'intimité ne convient pas à la femme si elle n'est pas connectée à son conjoint sur le plan émotif. Essayez pas d'arriver. Oui, des petites vites, il y en a, puis c'est correct, puis ça, c'est d'un commun accord, mais souvent, la femme a besoin de plus de préparation. Tandis que les hommes, pour être heureux, eux autres, là, ils privilégient la nourriture, le sexe, puis le respect. Puis les femmes, eux autres, ils valorisent la sécurité, ce qui vient avec, là, les émotions, les rapports physiques. Fait que si on n'est pas connecté si on ne se connaît pas, puis on n'arrive pas à se connecter, bien, ça peut diminuer justement les rapports sexuels.
Oui, parce que c'est comme si dans. Le rapport sexuel, c'est une mutualité. Hein? Il y a un plaisir mutuel qu'on recherche. Il n'y a pas seulement son propre plaisir, mais il y a la recherche du plaisir de l'autre parce que mon plaisir dépend en partie du plaisir de l'autre et vice-versa. Donc, il y a cette mutualité. Je suis à la recherche de mon plaisir parce que si je veux avoir une relation sexuelle, j'en retire un plaisir. Si j'en retire pas de plaisir, c'est pas plaisant. Mais ce n'est pas seulement mon plaisir, c'est celui de ma conjointe aussi. Puis c'est pour une femme, bien, c'est celui de son conjoint aussi. Il y a cette mutualité-là qui doit être recherchée. Et c'est en tenant compte des besoins de l'autre que ça nous enrichit d'une part, ça nous donne d'être en mesure de se donner à l'autre et de voir qu'on a contribué à la satisfaction de l'autre. Et ça, c'est tellement enrichissant sur le plan relationnel. C'est tellement puissant. Et ça, ça demande de la maturité aussi dans la relation. Puis je vais enchaîner avec un autre point parce que, justement, dans les besoins que les hommes ont, parce que souvent, nous, parce qu'on n'est pas, aussi rapide ou on n'est pas formaté de la même façon que vous, mesdames, pour exprimer nos émotions, notre ressenti. La génération plus jeune là, que la nôtre a plus de facilité, je dirais, mais il reste que néanmoins, les hommes ne sont pas aussi rapides ou n'ont pas la même agilité à parler de leurs émotions, à les communiquer et à développer des conversations plus émotionnelles. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas capables de le faire, mais ce n'est pas, disons, une réaction aussi automatique qu'une femme. Et à cause de ça, pourquoi je vous dis tout ça, pourquoi c'est un préambule dans le fond, c'est parce qu'une femme peut penser que son mari, parce qu'il n'est pas très expressif émotionnellement, qu'il n'est pas nécessairement sensible. Et ça, il faut faire attention à ça. C'est pas parce qu'on n'est pas habile ou on ne trouve pas la façon ou on n'a pas un langage émotionnel très élaboré qu'on n'est pas sensible. Parce que quand un homme se fait refuser une relation sexuelle, admettons qu'il l'initie de la bonne façon et il sent un refus continuel, à un moment donné, il va se refermer parce qu'il se sent blessé et il n'osera plus prendre les devants. Il va attendre que sa conjointe, sa femme ait le goût. Et ça peut causer une problématique justement dans la fréquence puis aussi dans l'humeur sexuelle du couple. Et est-ce que tu aurais un commentaire là-dessus, Diane, à faire?
Oui, en fait, en général, c'est l'homme qui va être avec sa femme physiquement. Tu sais, la connexion physique implique là, des comportements sexuels, sensuels, caressants ou de flirt. Puis, il se produit un cercle vicieux. Si l'homme fait les premiers pas vers la relation sexuelle, puis que sa femme rejette ses avances parce qu'elle n'est pas encore rendue là sur le plan émotif, bien, il se sent rejeté et pour cause. Mais c'est pas qu'elle veut le rejeter, c'est qu'elle n'est pas encore rendue là.
Exact.
Si la femme s'éloigne encore plus à ce moment-là, parce qu'elle voit que lui, il n'a pas connecté sur le plan émotif. Il faut vraiment essayer de se rencontrer à mi-chemin. Là. Puis ça, c'est ça qui est le plus difficile, je pense. Fait qu'il doit faire comprendre à sa femme combien il l'apprécie. Puis elle doit être plus affectueuse physiquement. Fait que les bonnes relations se bâtissent sur le soin qu'on prend l'un de l'autre. Puis quand c'est la femme qui... c'est souvent la femme dans les deux partenaires qui a le moins de libido, là. Excusez pour les femmes qui en ont plus que leur conjoint, mais ça arrive souvent que c'est les hommes qui en ont le plus. Bien, de toute façon, que ce soit un ou l'autre, là, celui qui en a moins, il devient le contrôleur parce que c'est lui qui dit « Wow, non, pas ce soir, chérie, j'ai mal à la tête » ou bien « Pas ce soir, chérie, je suis épuisée » ou qui dit « Non, ça ne me tente pas pantoute. » Ben dans ce cas-là, je pense que c'est ce serait bon que le « contrôleur », entre guillemets, là, fasse des avances, lui, au moins une fois par mois, puis que ce soit respecté, tu sais, pour que le conjoint qui, lui, faisait toujours les avances, ben il ne sent pas que c'est juste lui et que c'est juste lui que ça intéresse. Mm-hmm. Il faut que la personne qui a une moins grande libido puisse faire aussi ces efforts-là d'aller vers son partenaire, même quand c'est peut-être moins, la personne est moins portée sur la relation sexuelle, parce que c'est quand même vraiment important. C'est une dimension importante du couple. Même s'il y a 20% des couples qui ne font plus l'amour.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand il y a une insatisfaction ou il y a quelque chose qui ne va pas, votre réflexe à vous, les femmes, c'est de vouloir en parler. Parce que quand vous parlez, vous mettez en lumière, vous clarifiez des choses et ça vous donne l'occasion d'améliorer ce qui ne va pas. Vous voulez soulever quelque chose qui ne va pas parce que vous voulez l'améliorer. Vous recherchez l'harmonie. Et dans le domaine de la sexualité, ben personne n'y échappe. Mais ce qui arrive, un homme, surtout en matière de sexualité, parce que ça touche son intimité, ça touche à quelque part sa vision de la virilité, sa vision du succès, parce que pour lui, rendre sa femme heureuse sexuellement, ça fait partie de sa vision du succès matrimonial, conjugal. Bien, il faut faire attention de ne pas trop questionner un homme, par exemple, suite au fait que lui n'a pas le goût ou suite au fait qu'il y a une certaine distance sexuelle. Donc, il faut vraiment choisir son moment puis voir dans quel état d'esprit est son conjoint. Parce que plus qu'un homme se tait, plus qu'une femme va chercher à le questionner pour comprendre.
Parce que ça l'insécurise.
Exactement. Mais plus qu'un homme se fait questionner, plus qu'il se met sur la défensive parce qu'il dit « Attends une minute, là, j'ai pas le goût de parler, puis elle me picosse, ça me gosse, ça me tanne, ça me fatigue. » Alors, quand c'est des sujets délicats comme ça, c'est important de peut-être c'est plus difficile pour vous, mesdames, mais ça va éviter une tension, puis peut-être revenir à un autre moment, peut-être l'aborder d'une autre façon, parce que c'est pas nécessairement pertinent de tenter de régler la chose sur le moment, lui laisser un peu d'espace. Et surtout un homme, si après une question, il n'y a pas de réponse ou il est évasif, c'est pas parce qu'il n'a pas répondu là qu'il ne vous reviendra pas là-dessus. S'il ne vous répond pas tout de suite, c'est parce qu'il veut prendre le temps d'y réfléchir, puis il va vous revenir là-dessus, règle générale. Et parce qu'il est constitué comme ça, un homme, c'est comme un élastique. Il s'éloigne pour mieux revenir. Donc, tu as touché le point, Diane. Ça crée chez la femme de l'insécurité, mais il ne faut pas donner foi à cette insécurité-là. Pardon?
Il ne faut pas le prendre comme ça. Il faut que l'homme a besoin de se retrouver dans sa caverne. On en a déjà parlé longtemps. Il a besoin de se retrouver dans sa caverne pour justement aller voir qu'est-ce qui ne va pas. Ça peut être autre chose, c'est pas nécessairement dans sa vie de couple ou sa vie sexuelle, ça peut être son travail qu'il travaille, ben oui. Ça peut être ça qui l'amène à pas avoir envie, à être préoccupé, les préoccupations financières. Il y a plein de choses qui fait qu'un gars n'a pas envie, même si c'est plus rare quand même, là, je pense. Mm-hmm. Mais c'est important de le laisser aller dans sa caverne, puis c'est sûr qu'il va revenir. Inquiétez-vous pas, mesdames, il ressort de sa caverne parce qu'il faut qu'il vienne manger, il faut qu'il vienne vous voir, il faut qu'il vienne vous sentir, il aime sa conjointe, tu sais. Oui. Mais c'est ça, je pense que c'est ça que c'est important, puis de ne pas se sentir comme insécure parce qu'il est parti dans sa caverne. Ça fait partie du fait que c'est un homme, puis une femme, bien, les hommes, ça fait partie d'être des femmes qu'on questionne, tu sais, mais il faut apprendre à questionner moins, puis on pourra échanger plus tard. Tu sais, en plus, on peut dire, tu sais, l'homme, il pourrait dire, « Chérie, regarde, maintenant, ça ne me tente pas d'en parler, j'ai besoin de me retrouver un peu toute seule dans ma bulle, Mais je te promets, on en reparle demain soir ou tout à l'heure ou cet après-midi ou peu importe. Si tu lui donnes un temps, comme ça, elle est rassurée.
C'est très bien. Puis, qu'est-ce qui fait qu'un homme s'intéresse moins au sexe dans une période de sa vie? Ça peut être une saison de sa vie. Parce que, comme tu l'as dit, règle générale, c'est, on parle de généralité, c'est l'homme qui a plus d'intérêt pour ça ou plus d'intérêt à l'activité sexuelle. Mais qu'est-ce qui fait qu'un homme ne s'intéresse pas au sexe?
Bien, encore là, je m'excuse. Il y a encore beaucoup de raisons médicales. Hein. Ça peut être la dépression, puis la prise d'antidépresseurs qui souvent, malheureusement, diminue l'appétit sexuel, la libido. Ça peut être un taux de testostérone trop bas. Il arrive qu'à l'andropause, le taux de testostérone soit trop bas, puis ça entraîne un manque d'énergie, la dépression, le manque d'intérêt sexuel. Ça peut être un dysfonctionnement érectile, l'éjaculation précoce, encore une fois. Ça peut être le stress au travail, qui n'est pas du tout médical, mais le stress au travail. Ça peut être les finances, comme je disais tantôt, qui préoccupent celui qui ramène le plus d'argent à la maison, qui est très soucieux de que sa femme manque de rien, que ses enfants manquent de rien. Puis ça peut être aussi, et souvent c'est ça, l'épuisement. On dit que 98% des hommes affirment que le manque d'intérêt sexuel n'a rien à voir avec ce qu'ils ressentent pour leur partenaire. C'est beaucoup ça, l'épuisement, surtout aujourd'hui avec le monde dans lequel on vit, là, qui va tellement vite. Ça peut être ces raisons-là.
Tout à fait. Puis aussi, justement, j'en parlais ce matin dans les matins d'Éric, il y a un élément qui est à considérer, c'est parce que quand une femme sent que son mari est plus distant, plus froid, c'est peut-être parce qu'il est en train de se rendre compte, en tout cas dans sa perspective à lui, que... Il se dit, hey, je me donne, puis j'ai rien en retour. Et il est peut-être tombé dans ce cycle-là, ayant l'impression que ce qu'il fait pour vous, mesdames, ça l'a perdu de la valeur. Alors, pour réactiver un peu son intérêt vers vous, c'est important de lui manifester de l'appréciation. Et parfois, si ce n'est pas tout à fait à la hauteur de vos attentes, au moins de mettre en valeur ses efforts, mettre en valeur ses bons coups. Et ça va lui redonner de la vie et il va retrouver un intérêt à connecter avec vous. Alors, des fois, ça prend un petit déclencheur comme ça. Je vois que le temps file, Diane. On aurait le temps pour un dernier point. Quand une femme ne s'intéresse pas au sexe, qu'est-ce qu'il y a derrière ce manque d'intérêt?
Bien, c'est un peu comme l'homme, la variation des hormones. Tu sais, dans un cycle menstruel de 28 ou 30 jours, il y a une courbe, tu sais, qui l'apogée, c'est vraiment autour de l'ovulation. Donc, plus d'œstrogène qui est en jeu, fait que donc plus de désir sexuel. Puis la même chose pendant la ménopause, bien, la ménopause, c'est la diminution des œstrogènes aussi, ce qui fait que ça peut être ça qui fait qu'ils ont moins envie. Ça peut être la dépression pour les femmes aussi, ça peut être l'usure du couple, tu sais, métro, boulot, dodo, puis on regarde la télé dans le lit ou on joue à des jeux vidéo, ce qui fait que bien, on ne se retrouve pas, tu sais.
Excellent.
Moi, dans tout ça, je pense que l'important, là, c'est d'être capable d'en parler dans une atmosphère détendue, puis de s'écouter, de parler au jeu, puis de prendre soin de soi, tu sais. Je pense qu'aux femmes, là, on se dévalorise souvent. On a parlé aussi dans les capsules, dans les dernières capsules. On prend du poids, par exemple. On s'aime moins physiquement. On voit tellement comment les femmes, à la télé, au cinéma, comment elles sont bien faites, sont belles, sont toutes botoxées, tu sais. Nous autres, ben, on vieillit, on a des rires, donc aussi, on prend du poids, tu sais. Fait que... on perd un peu d'estime de soi, mais c'est de reprendre tout ça. Puis si jamais ça ne va pas avec tous ces petits soins-là, bien, consulter. Encore une fois, je pense que c'est important de consulter.
Tout à fait. La semaine prochaine, Diane, on va aborder d'une manière un peu plus détaillée la différence entre la sexualité masculine puis féminine. On l'a abordé au travers chacune des capsules, mais là, on va aller un peu comme un entonnoir, on va aller d'une manière un peu plus précise. Qu'est-ce qui différencie? C'est quoi la différence entre la sexualité masculine et féminine? les besoins masculins, les besoins féminins. Et donc, on aura la chance d'en parler la semaine prochaine et d'élaborer davantage là-dessus. Merci beaucoup, Diane, d'avoir été là. Ce fut un grand plaisir.
Merci, Eric.
C'est vrai que ça passe trop vite. Alors, merci à tous les auditeurs qui ont été là avec nous à cette émission en toute intimité. Et plus les semaines vont avancer, bien, plus les sujets vont être mordants. Et bien, on y va progressivement. Merci d'être là. N'oubliez pas de, si vous voulez nous écrire, eh bien, vous pouvez, par exemple, m'écrire à Éric Lantier, acommercialmarsvenuscoaching.com. Éric Lantier, acommercialmarsvenuscoaching.com. Sur ce, eh bien, je vous dis merci d'avoir syntonisé le 92.7 FM. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Au revoir.